Nous sommes encore dans notre campagne Crazy Love, la septième semaine. On est presque au bout là. Qu'est-ce que c'est cette campagne Crazy Love? C'est en fait notre effort de grandir dans notre connaissance de Dieu et aussi dans notre amour pour lui. Nous sommes fermement persuadés que la qualité de nos vies sans et de notre santé spirituelle, de nos ministères, de notre témoignage est directement liée à cette question: est-ce que nous grandissons dans notre amour pour Dieu? Et c'est pour cette raison que nous avons pris le temps ces dernières semaines à faire le bilan spirituel de nos vies. Alors, comment ça va? Ça va bien? Est-ce que vous grandissez dans votre connaissance de Dieu? Est-ce que vous désirez le Seigneur plus aujourd'hui qu'il y a 6 semaines ou il y a 6 mois? Est-ce que vous êtes encouragé par votre progrès? Moi, je le suis, personnellement. En parlant avec différentes personnes, je suis aussi encouragé d'entendre comment vous progressez. Vos témoignages me donnent envie de continuer avec le Seigneur sans relâche. Mais pour d'autres personnes, peut-être certaines ici ce matin, je sais que pour vous, vous éprouvez plutôt le sentiment qui n'est pas vraiment la satisfaction, mais plutôt la culpabilité ou la confusion, peut-être l'indifférence. Je pense à cette idée-là. On dit, il faut aimer Dieu plus, et puis on dit, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Et trop souvent, il faut avouer qu'il y a un blocage dans nos têtes. Nous savons que Dieu veut que nous l'honorions, et nous nous faisons tout un tableau de choses que nous devons faire pour montrer notre fidélité. Nous travaillons sans relâche, mais au bout d'un certain moment, on se rend compte que nous ne pouvons pas atteindre notre idéal. Malgré tous nos efforts, nous n'arrivons pas. Et quand nous lisons un livre comme Crazy Love, ça nous remet en question un petit peu. Alors notre relation avec Dieu ne peut pas se réduire à une liste de choses à faire pourtant. Ce n'est pas en faisant des choses que nous gagnons l'approbation de Dieu. C'est plutôt que Dieu nous appelle lui-même. Et quand nous nous approchons de lui, nos cœurs, en fait, sont transformés. Vous voyez, il y a une différence. Soit j'essaie de gagner l'approbation de Dieu par les choses que je fais, et lui, il me dit, viens, tout simplement, comme tu es. Et puis alors, on va travailler sur les choses ensemble. Alors ce matin, ce que je voudrais faire, c'est regarder un texte très connu. Hébreux chapitre 11. C'est un chapitre qui témoigne de la foi des héros de la Bible, tels que David, Moïse, Abraham. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas les zéros, ça c'est vrai. Héros. Ah zut. Merci de votre patience. Alors pour nos chers héros, ce passage nous donne la clé pour notre relation avec Dieu. C'est la foi. Alors, on ne va pas lire tout le chapitre. C'est un chapitre merveilleux, mais on n'a pas le temps ce matin à tout lire. Et je vous encourage, en rentrant à la maison, prendre du temps cette semaine pour lire tout le chapitre 11. C'est vraiment, vraiment fort et encourageant. Mais on va commencer par Hébreux 11, versets 1 et 2. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Notre foi en Dieu nous donne le moyen de saisir ce que Dieu nous a promis. Mais des choses qui ne se sont pas encore réalisées dans nos vies. La foi est la capacité de dire « Je fais confiance à Dieu et à ce qu'il va faire dans ma vie. » Quand nous disons que nous grandissons dans l'amour de Dieu, c'est dire que nous sommes émerveillés par lui, que nous avons la certitude qu'il est bon, il est fidèle, qu'il est amour, qu'il est saint. Et que ses chemins sont bons pour nous et qu'il va nous montrer la voie. Émerveillés par lui, confiants en lui, convaincus que le suivre est le meilleur choix possible, pris par son amour et sa bonté, toutes ces choses sont des façons différentes de dire que nous avons placé notre foi en Dieu. Le texte de Hébreux 11 nous donne un aperçu de plusieurs personnages pour nous encourager dans notre foi. Et nous pouvons tirer trois leçons de ces textes et ce sont les trois points qu'on va voir ce matin. D'abord, nous allons voir le portrait de quelqu'un qui grandissent dans la foi. Puis nous verrons comment la foi se manifeste dans la vie. Et ensuite nous verrons un challenge de la foi. Commençons par le portrait de quelqu'un qui grandissent dans la foi. Dans notre passage, l'auteur d'Hébreux nous adresse toute une liste de personnages et d'histoire pour nous encourager dans nos vies. Nous trouvons au moins 15 personnages différents dans ce chapitre, chacun avec sa vie unique, avec ses challenges uniques et avec ses faiblesses uniques. Alors, qui sont tous ces gens? Et c'est là où je vais résumer ensemble. Est-ce que ces gens-là sont, est-ce qu'ils avaient des qualités uniques qui permettaient qu'ils aient une telle grande foi? C'est-à-dire, une fois par génération, il y a quelqu'un qui se lève, il a plus de capacité de foi que d'autres personnes? Non, je ne pense pas. Je pense que chacun de ces histoires était et décrivait quelqu'un de normal que Dieu a appelé. Nous trouvons des hommes et des femmes qui ont changé le cours de l'histoire et pourtant ils étaient loin d'être parfaits. Certains avaient des défauts importants, d'autres des défis personnels profonds. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu lui a dit de partir de son pays, mais Abraham avait aucune idée où il est. Et puis, Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père d'une multitude de descendants, mais à 85 ans, il n'avait pas d'enfant. Imaginez ce qui se passe dans la tête. Deux fois, quand il était dans des situations difficiles, il a menti, disant devant les rois que sa femme n'était pas sa femme, mais plutôt sa sœur pour sauver sa peau. Mais Dieu a fait d'Abraham le père de notre foi parce qu'il croyait Dieu. Ou bien Moïse, un homme qui a grandi dans deux cultures, l'une en conflit avec l'autre. Il a tué un homme. Il a eu du mal à croire que Dieu pouvait l'utiliser à 80 ans. Mais Dieu l'a utilisé pour libérer des millions de ses compatriotes de l'esclavage. Il les a amenés jusqu'à la terre promise et il les a appris qui était Dieu. Ou bien on trouve dans cette liste de personnages Rahab, une prostituée, qui a reçu et protégé les Israélites envoyés en éclaireur. Elle a mis sa foi en le Dieu d'Abraham et grâce à ça, sa vie était sauvée et a radicalement changé. Et Matthieu nous raconte qu'elle est l'un des ancêtres de notre Seigneur Jésus. Il y a d'autres personnes dans la liste qui avaient des gros problèmes familiaux. Je pense à David, par exemple. Des personnes qui étaient faibles dans certains domaines et qui avaient des craintes majeures. Mais chacun se trouve dans cette liste d'héros parce qu'il a mis sa foi en Dieu. Francis Chan, dans ce livre, résume bien. Il dit ceci: loin d'être parfait, ces personnages croyaient néanmoins un Dieu qui pouvait les sortir des situations les plus désastreuses. Alors, quel est le portrait de quelqu'un qui a foi en Jésus? Est-il quelqu'un de parfait? Non. Faut-il faire de grandes choses pour recevoir l'approbation de Dieu? Non plus. Mettre sa foi en Jésus veut dire que nous le croyons, que nous lui faisons confiance. Hébreux, chapitre 11 encore, verset 6, nous dit ceci: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Voici, mes amis, la foi que nous avons, que Dieu existe, et quand nous le cherchons, il nous récompense. Nous reconnaissons que ce que Dieu dit est vrai et que ses promesses sont fiables. Nous reconnaissons que Dieu est plein de bonté et qu'il est miséricordieux. Nous reconnaissons notre besoin de sa grâce et de son pardon. Alors maintenant, il faut admettre que vivre par la foi, ce n'est pas chose facile. Et il y a beaucoup de choses qui militent contre une pleine confiance en Dieu. Et notre société ne va pas nous encourager dans cette démarche. Quels sont les obstacles? Il y en a beaucoup, mais je pense à trois. Trois obstacles à une foi grandissante. D'abord, il y a ce désir qui est au fond de chacun de nous, et c'est ce désir de garder le contrôle de notre vie. Alors, on veut bien suivre le Seigneur, au moins qu'il est d'accord avec moi. C'est une tentation pour chacun de nous. On voudrait que ce soit nous qui nous décidons et on ne cède pas le contrôle de notre vie. Un autre obstacle, c'est aussi la peur. On n'ose pas nous lancer dans l'inconnu de peur que les choses, ça peut tourner mal. On ne sait pas l'avenir et donc on peut faire tout ce qui est connu. Ça va. Mais il y a un autre obstacle que nous voyons là, ou que nous vivons parfois, c'est la recherche d'amusement. Il faut admettre que dans notre société, nous préférons largement nous distraire que de suivre Dieu. Francis Chan le dit ainsi, les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas prendre de risques. Nous préférons demeurer dans des situations où nous nous sentons en sécurité, même si Dieu n'existe pas. Pourtant, si nous voulons vraiment plaire à Dieu, nous ne pouvons pas vivre ainsi. Il nous faut entreprendre des choses qui nous coûtent durant cette vie, mais qui en vaudront plus que largement la peine dans l'éternité. Quand nous disons que nous avons la foi, ce n'est pas simplement une déclaration de ce que nous croyons intellectuellement. Cela veut dire que nous estimons que l'objet de notre foi est digne de confiance et que nous prenons des décisions en fonction de cela. Voilà le portrait de la foi. Comment ça se manifeste-t-il dans nos vies? Je vais faire court parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre culte, mais j'observe quatre choses. Dans ce passage, on voit que la foi est manifestée par l'obéissance persistante. Dans le texte, nous avons l'exemple, par exemple, de Noé, qui a reçu l'ordre de construire une arche. Cela a pris plus de 100 ans pour l'achever. C'était un projet de longue durée. Noé a dû persister. Et si nous regardons de près, nous verrons que chacun dans cette liste a été obéissante sur le long terme. Et c'est le défi pour chacun de nous. C'est facile à commencer, c'est plus difficile à continuer. Cela demande que régulièrement, nous revenons vers la source de notre foi pour rester fidèles. J'ai un ami de longue date qui s'appelle Chris. Chris est un homme, quand j'avais 15-16 ans, m'a appris et il m'a encouragé dans ma foi. C'était le pasteur des jeunes à l'époque dans l'église où j'étais. Et ce qui était incroyable, c'était que Christ, il nous disait, Dieu m'a appelé à être pasteur des jeunes et à toucher toute une génération de jeunes pour lui. Alors, ensuite, quelqu'un que lui, il avait formé, m'a formé. Et il est resté dans cette église, je pense, 20 ou 25 ans. Il était toujours pasteur des jeunes. Ensuite, quand l'église a dit, c'est maintenant le moment que tu passes le bâton à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu consultant et mentor pour d'autres pasteurs de jeunes. Maintenant, aujourd'hui, il a à peu près 60 ans et il est toujours, toujours dans cet élan de toucher toute une génération de jeunes pour le Seigneur. Et quand je vois son exemple, je dis, Seigneur, je veux une foi aussi persistante que ça. Une autre chose qu'on voit dans ce texte, c'est que on voit dans la vie de ces personnes que la foi se manifeste dans leur confiance à faire des choix difficiles. Par exemple, Moïse, Hébreux 11, 24, 25, par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille de Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Alors aussi, troisième qualité, c'est que ces personnes-là, ils avaient une vision de l'avenir. Quand Abraham, Isaac et Jacob se sont décédés, est-ce qu'ils avaient reçu le pays que Dieu leur a promis? Non. Mais en fait, ils ont pu regarder plus loin. Lisons le verset 16. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Ainsi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité. Et Moïse, comment a-t-il pu refuser le pouvoir et la richesse? C'était en regardant vers l'avenir, regardons le verset 26. Car, estimait-il, subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Oh, amis, non, chers amis, notre avenir n'est pas ici, sur cette terre. Nous allons passer beaucoup plus de temps dans l'éternité que nous vivons ici. Dieu nous réserve une patrie durable pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Il nous réserve des récompenses pour notre fidélité. Ceci aide le peuple de Dieu à regarder et à garder une perspective de long terme. Elle nous aide à rester attachés à Dieu. Alors, on va conclure, c'est promis. Le défi pour nous, c'est rester fidèle jusqu'au bout. Compléter ce que le Seigneur a commencé en nous. De vivre notre foi jusqu'au bout de nos vies. Quand nous prions, notre prière et nos prières sont entendues par le même Dieu qui a répondu à Moïse quand il demanda que l'eau jaillisse dans le désert, et à Abraham et à sa femme stérile. C'est le même Dieu. Mes frères et sœurs, chacun de nous a reçu des dons et des talents de la part de notre Maître. Ce qui compte vraiment, c'est ce que nous faisons avec ce que nous avons reçu. Et chacun ici ce matin reçoit du Seigneur des encouragements. Nos vies sont différentes les unes des autres, mais nous avons le même Dieu qui nous appelle. Et je ne sais pas si vous êtes fatigué dans votre élan, si c'est difficile, si peut-être vous avez fait fausse route. Mais ce qui est important, c'est qu'on retrouve le chemin et on continue jusqu'au bout. Je pense à cette action de la banque alimentaire. Cette semaine, nous avons vu dans nos groupes de maison ce verset Galates 5, 13 à 14. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, comment est-ce qu'on peut y arriver? Toute seule? Jamais. Et c'est pour cette raison que l'auteur de la lettre aux Hébreux dit ceci. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui traverse les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Prions. Seigneur, il n'y a pas une seule personne ici ce matin qui peut dire que nous vivons parfaitement notre foi. Mais nous pouvons avec confiance te dire que nous te désirons. Même si on a des questions, même si on ne sait pas, même Seigneur, parfois si on perd un petit peu l'honneur, Seigneur, nous te désirons. Et nous te demandons que tu nous accordes ta grâce, que tu nous aides à aller jusqu'au bout et que tu nous aides à écarter cette idée qu'on peut faire, que c'est simplement en faisant des choses que tu nous donnes ton approbation. Aide-nous, Seigneur, à te chercher, toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à grandir dans cette foi. Aide-nous à être encore plus étonnés, plus émerveillés par ta personne. Nous prions au nom de Jésus. Amen.